habitudes. L'ennui a tout dévasté. Le fleuve roule son eau vive et l'on repart à l'infini où l'on découvre au bord du Tendre le jardin où l'on peut s'étendre, la terre promise de l'oubli.
Bonsoir, vous êtes bien sur Jeudi Noir 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître, ni publicité. Alors après une petite expérimentation, on va dire, technique, c'est Michel qui a la technique ce soir, et il est venu avec plein de musique qu'il aime, et il nous en a voilà, donné un petit échantillon. Alors ce soir avec Martin Moran et moi-même, autour d'un livre des éditions Elliott qu'on salue, La violence des frontières, les réfugiés et le droit de circuler de Rhys Jones. Alors je vais essayer de vous présenter un peu le contenu de ce livre et puis en vous donnant envie de le découvrir par vous-même. Voilà. Alors, Rhys Jones est un géographe. C'est un géographe qui enseigne à l'université d'Hawaï aux États-Unis et qui est spécialiste des frontières, comme le titre de son ouvrage l'indique. C'est un livre qui date de 2016. Enfin, il a été édité en 2016, donc au début du premier mandat de Donald Trump. Et il a été traduit par les éditions Elliott en 2022. Donc, c'est pas un livre qui vient de sortir, mais le sujet dont il nous parle, la question des migrations et celle des frontières, est évidemment d'actualité. Il développe en fait une conception des frontières qui peut paraître assez ambitieuse. Je vais commencer par spoiler la fin, ça vous dérange pas?
Non, c'est pas grave.
Non, ça, c'est pas. Bon, voilà. Non, mais c'est pour donner le cadre, on le sent de toute façon, il le dit dès le début du livre, mais c'est Rhys Jones, c'est quelqu'un qui défend bien la suppression des frontières, la liberté de circuler, et qui défend également la mise en place d'un droit du travail international et la création d'institutions supra-étatiques qui seraient chargées de mettre en place des normes de protection de l'environnement à l'échelle mondiale. Donc une sorte de dépassement, je dirais, assez radical des États et de leurs attributions. C'est des propositions qui ont évidemment toute notre sympathie. Même si, je le dis aussi d'emblée, c'est peut-être très ambitieux en fait de sa part au vu de ce qu'il développe dans le. Dans le livre. Alors, en fait, le bouquin est construit un peu de la manière suivante. Il s'appuie sur un certain nombre d'enquêtes, de séjours qu'il a pu faire dans diverses régions du monde, où se pose la question de la violence frontalière et à l'égard des migrants. Alors, il y a un chapitre qui est consacré notamment aux frontières de l'Europe, avec un chapitre consacré notamment à la frontière espagnole au Maroc, hein, c'est-à-dire cette enclave espagnole qui est au Maroc et qui marque la frontière sud, une des frontières sud de l'Europe. Il a enquêté également le long de la frontière américano-mexicaine. Il a également été enquêté à Jérusalem, c'est-à-dire le long de la frontière israélo-palestinienne, une des frontières israélo-palestiniennes. Et puis également à la frontière indo-bangladesh. Voilà, donc c'est un petit peu les différents spots, je dirais, sur lesquels il s'appuie et dont il rapporte un certain nombre de récits, de témoignages, bon, souvent évidemment assez dramatiques, de l'expérience des migrants et puis aussi de la manière dont ces frontières se sont peu à peu militarisées. C'est une de ces thèses, c'est-à-dire l'idée d'une espèce de bascule des régimes frontaliers mondiaux, c'est-à-dire donc d'une part la création et la fabrication assez universelle de murs, il y a un certain nombre de cartes, hein, c'est un géographe, et donc il permet de visualiser en fait toutes les frontières qui se sont dotées de murs physiques depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est aussi quelqu'un il est aussi très attentif à la manière dont les différents États ont militarisé, je viens de le dire, ces frontières, c'est-à-dire dont ils ont développé en fait des services qui ne sont plus de l'ordre du contrôle ou de la sécurité intérieure, mais qui déploient à la fois des budgets, des équipements et des pratiques qui sont de nature militaire, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis et aux autres frontières que je viens d'évoquer. Donc ça, il y a toute une partie où effectivement il restitue tout simplement les enquêtes et les témoignages qu'il a pu aller collecter sur ces différents points. Et puis, il y a une partie alors du livre que je trouve, c'est celle qui m'a le plus intéressé après, où en fait il fait une espèce d'histoire de la notion même de frontière, la manière dont elle s'est mise en place à partir du XVIIe siècle, et comment en fait les frontières suivent aussi l'histoire de la cartographie, la capacité à représenter un territoire de manière à peu près exacte, à tracer des limites, à poser des interdictions, à créer des juridictions d'État. Donc il y a tout un chapitre là-dessus. C'est la partie historique qui est intéressante. Et puis, il s'intéresse aussi ensuite au rôle économique, pourrait-on dire, de ces frontières aujourd'hui, et à la manière dont, en fait, la pratique même de solidifier des frontières, de construire des murs, de les fermer et de les militariser, constitue une espèce de facteur économique de fond. Des échanges économiques mondiaux, c'est-à-dire une manière de parquer en fait une bonne partie de la main-d'œuvre mondiale pour maintenir en fait une compétitivité des coûts et augmenter les bénéfices des entreprises qui investissent leurs capitaux dans ces différentes zones du monde, et comment en fait il y a une réalité non seulement économique mais je dirais presque économico-physique en fait de ça. Et comment c'est l'indice, d'après lui, d'un renforcement du pouvoir des États et non pas d'un délitement comme certains théoriciens le présentent aujourd'hui, c'est-à-dire comme si les États étaient assaillis, affaiblis et d'une certaine manière en perdition face à des vagues comme ça de submersion migratoire, pour paraphraser François Bayrou, qu'on salue. Et donc le... Et puis, alors ça c'est un chapitre intéressant également, et pour terminer, il y a aussi, alors ça c'est assez, assez intéressant aussi, même si c'est pas la partie la plus développée du livre, mais il y a toute une analyse aussi de l'impact écologique et environnemental, en fait, de cette solidification des frontières, c'est-à-dire les frontières, en fait, c'est des murs en béton qui en général font entre 4 et 6 mètres de haut et qui en fait dévient les trajectoires des différentes espèces vivantes, mais aussi des cours d'eau qui ont un impact sur la végétation, qui ont un impact en termes de pollution également, puisqu'en fait elles bloquent l'évacuation des ordures ou des déchets. Et quand une frontière fait plusieurs milliers de kilomètres, comme c'est le cas par exemple entre les États-Unis et le Mexique, ça a des conséquences réelles en termes environnementaux et en termes écologiques. Donc c'est une approche un petit peu globale, je dirais, de ce tournant-là des 10, 20 dernières années plutôt, cette propension des États à dresser des murs, à militariser le contrôle de ces murs, à parquer des milliards de personnes en réalité, et sans prendre absolument en compte finalement les impacts de cela, aussi bien en termes humains, pour ceux qui sont parqués, qu'en termes environnementaux, pour les conséquences que je viens d'évoquer, et sur le reste, quoi. Alors, du coup, ça donne une enquête qui est assez intéressante, parce que c'est vrai qu'il est... c'est un parti pris qui est assez... surprenant à première vue, parce que ce qu'il essaye de faire, en tout cas c'est ce qu'il dit dès le début du livre, c'est d'une certaine manière de nous inviter à essayer de dénaturaliser, je dirais, cette idée de frontière, de cette idée que finalement les frontières sont une forme de nécessité, qu'elles ont toujours existé, sous la forme qu'on leur connaît, et que d'une certaine manière, il n'y a pas d'alternative à un monde, segmenté, séparé par ça. Donc en fait, ce qui montre, c'est que du coup, en remettant comme ça sur la durée historique, il montre que en fait, ces frontières, elles sont loin d'avoir toujours existé. Et puis que en fait, la logique qui est à l'œuvre derrière leur renforcement, elle est au moins discutable, ça c'est sûr. Alors après, le point faible du livre, c'est qu'il insiste, lui, particulièrement sur l'aspect justement violent de cela, avec des définitions assez précises de ce qu'il entend par violence, donc violence physique vis-à-vis des migrants, évidemment, mais aussi violence environnementale, violence économique, et que il conçoit pas, lui, que ce soit quelque chose qui puisse être justifié. Alors, c'est là-dessus où, effectivement, sa thèse peut peut-être prêter un peu à discussion, parce qu'après tout, on est, je pense, assez nombreux à être favorables à un monde sans violence, mais c'est peut-être, pour le coup, plus difficile, je dirais, pour la soutenir telle comme ça, ou voilà, est-ce que le rôle de la politique, tel que lui, il le conçoit, c'est d'abolir la violence, bon, ce genre de choses. Mmh. Est-ce que toutes ces violences se valent? Il fait pas de distinguo, d'ailleurs, finalement, entre les différents États dont il nous parle, c'est-à-dire que l'Union européenne et pas distingué d'Israël, de l'Amérique de Trump ou du Bangladesh ou de l'Inde. Bon, du point de vue des effets, il a raison. Après, du point de vue de la signification politique en fait de ces frontières là, c'est peut-être aussi quelque chose sur quoi on peut discuter, parce que sans remettre en cause le fond et le constat de départ, c'est peut-être pas la même chose en fait Il y a peut-être la question du contrôle en fait que les populations peuvent avoir sur un territoire ou sur les entrants, et quelque chose qui à mon avis mériterait plus de développement que ce qu'il donne, quoi. Voilà. Bon. Donc c'est un peu une espèce d'esquisse un peu générale de ce qu'on trouve là dans ce livre, La violence des frontières de Rhys Jones aux éditions Elliott. Alors, pour préciser un peu aussi, c'est pour faire le lien avec d'autres questions qu'on a déjà souvent débattues ici. Un de ces auteurs de référence, c'est le grand anthropologue anarchiste américain James C. Scott, et il le dit explicitement. Donc, on a fait plusieurs émissions sur cet anthropologue-là, et en fait, il se positionne comme dans le prolongement en fait de certains travaux de Scott que Scott lui-même n'aurait pas fait aboutir, hein, qu'il avait l'intention de publier et qu'il n'a pas fait aboutir. Donc ça, c'est évidemment aussi une manière c'est une bonne raison de l'inviter à Jeudi Noir. Et puis ça lui permet, j'en parlerai tout à l'heure, mais ça lui permet aussi d'accrocher un certain nombre d'autres personnes, d'autres auteurs, notamment du côté de l'université américaine des avant-gardes, dirons-nous, qui ont parfois peut-être une approche beaucoup plus optimiste que lui de ce tournant autour des frontières à l'échelle mondiale. Donc c'est un livre que je conseille, hein, au moins aux auditeurs, La violence des frontières de Rhys Jones. On va peut-être faire une première pause musicale, et puis on rentrera peut-être plus en détail dans le contenu du livre après. Bon, voilà, c'est... We'll be right back.
aligne. De quel privilège sont-ils dotés? Vas-y, aligne. Quand je dis ils, je parle des fils de brutes qui assignent pays d'île, but, parasite, qui s'éparpille, pollue des terres, tout azimut. Armée, colonie, drame et calomnie. Vous allez passage de l'une question de mort, de vie digne. Dans le partage, espoir, courage, solution, vaccine, couleur, manie. Dans le sillage, ça partage des expériences, des trampolines. Prince et seigneur, les princes, la terreur, capille les secteurs. Garde les yeux égarillés, guette les carrières. On parle de justice, peu de respirer. Pas de piste, tant qu'il se prend en mode céréal, qu'il a. No border, plus de frontières. No border, plus de frontières. No border.
Fucked up, but it ain't no bang.
Des traits, des limites, sorties des têtes, des fils de brutes. Des terres, des rites sur lesquels ils empiètent, provoquent des chutes. De l'estime de soi, des cohésions ancestrales. Qui va là, gaffe à mon espace vital. Des coups frères, civilisateurs, armes, la totale. Et ces toiles sauvages, m'attendent pas tes cracks, t'évites le naufrage. Grâce aux armes, aux arnaques. No border, plus de frontières. 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 No border. Coupage de barbelés, brisage de murs. Rivage à accoster, courage d'envergure. Coupage de barbelés, brisage de murs. Rivage à accoster, courage d'envergure. Coupage de barbelés, brisage de murs. Rivage à accoster, courage d'envergure. Coupage de barbelés, brisage de murs. Rivage à accoster, courage d'envergure. Une pensée pour Simu. Big, big, big.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. On vient d'entendre, donc sur Jeudi Noir, avec Jean-Mathias au micro. Vous venez d'entendre deux morceaux, donc L'Oiseau Mort et One Brain. Et non, en fait. Non, vous venez d'entendre Neo Boys de Between Borders. Il y a des petits ajustements musicaux faits en début d'émission. Et donc ce soir, c'est Jean-Mathias qui vous présente La violence des frontières, les réfugiés et le droit de circuler de Rhys Jones. Donc c'est un livre qui date de 2016, traduit de l'anglais donc, en 2022 aux éditions Elliott. Donc Jean-Mathias nous expliquait les principales thèse en fait du livre, et peut-être que tu vas nous parler de la constitution, la construction
des frontières. Ouais, bah c'est un des points. Alors c'est rien de révolutionnaire, parce que c'est un rappel historique. C'est pas un travail de recherche proprement dit, mais en fait c'est une manière effectivement de rappeler le caractère finalement historique des frontières, et le fait qu'on a affaire à des tracés et des séparations entre des zones géographiques qui sont arbitraires. Bon, ça il est quand même bon de le rappeler. Et en fait c'est quelque chose qui, voilà, il fait une espèce de petit résumé historique assez rapide sur l'historique de la frontière américano-mexicaine, notamment 1850, un trait tracé, voilà, en accord avec l'Espagne, puis avec le Mexique, mais un trait qui correspond, c'est un trait géométrique pour le coup, hein, au milieu du désert. Et pendant très longtemps, en fait, il n'a que cette existence-là. Ouais, c'est un trait sur une carte. Et c'est pour mesurer, en fait, justement, l'espèce de décalage qu'il y a entre aujourd'hui cette espèce de clôture de 6 mètres de haut, bétonnée, survolée par des drones, jonchée de détritus, et sur lesquels, voilà, vous avez des gens qui perdent la vie. Alors, plus pour monter davantage dans le temps, en fait, bon, c'est pareil, c'est des choses qui sont connues, mais en fait, l'émergence en fait de l'idée même de frontières, l'officialisation en fait des frontières, hein, bon, lui, il rapporte ça en fait au début du XVIIe siècle, notamment en Grande-Bretagne, avec le fameux mouvement des enclosures, c'est-à-dire la définition de propriété privée attribuée, voilà, juridiquement à des individus, et il rappelle qu'en fait, que dès le départ, le mouvement des niveleurs, des bêcheurs, comme on les a appelés, était précisément en fait tout à fait conscient du tournant en fait qui était en train d'opérer et militait massivement pour une défense justement d'une conception communiste, je ne sais pas trop comment il faut dire, hein, de l'espace, ce qui avait été la réalité pendant toutes les époques précédentes, avec la possibilité pour ceux qui ne possédaient rien en propre, d'utiliser des espaces communs pour y trouver leurs ressources. Donc un rappel là-dessus. Et de fait, ça correspond, et il le rappelle, ça correspond aussi avec le tournant cartographique en fait des États, c'est-à-dire la capacité justement à représenter sur des plans ce que c'est qu'un espace appropriable avec une limite, ceci est ça, ceci n'est pas ça, ceci appartient à tel, ceci n'appartient pas à tel. Donc ça se fait pas tout seul en fait, hein, ce mouvement des enclosures, qui rappelle évidemment toute la lutte qu'il y a autour de cette question en Angleterre. Après, l'étape suivante, l'émergence en fait des frontières comme la marque en fait des juridictions étatiques, en fait de juridictions étatiques sur lesquelles, donc d'espaces sur lesquels un gouvernement d'État va pouvoir exercer sa souveraineté. C'est encore plus tard, c'est après la guerre de 30 ans, donc le traité de Westphalie à la fin du 18e, où on a c'est aussi l'apparition, la création des fonctions d'ambassadeurs permanents. Il y a toujours eu des ambassades de telle ou telle puissance, mais c'est des ambassades nomades, des ambassades intermittents, des expéditions, c'est des facteurs, pourrait-on dire. Le principe d'avoir une ambassade permanente, effectivement, il est lié à ce traité de Westphalie, à un partage du territoire européen entre des souverainetés d'État. Mais c'est une première, c'est-à-dire que ça n'a jamais existé en tant que tel auparavant, et puis c'est des frontières qui sont encore très largement poreuses, physiquement. Donc on a ça, et puis surtout, pas surtout, mais après, il rappelle, la conférence de Berlin, 1884, c'est le partage de l'Afrique. Partage de l'Afrique entre les puissances coloniales. Alors, c'est une petite partie de l'Afrique qui est déjà sous emprise coloniale anglaise, française aussi. Les Allemands s'en mêlent, les Belges veulent leur part. Et en fait, tout cela, effectivement, donne des tracés de frontières qui sont encore largement en vigueur aujourd'hui et qui sont purement tracés à la règle. C'est-à-dire qu'on ne tient même pas compte du relief, du fleuve, alors encore moins, effectivement, de la culture, de la langue, de la religion ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a un partage purement géométrique d'un continent entier.
Qui repose sur des justifications, du coup, là.
Justification, c'est le bras de fer entre les puissances impériales autour de la table à Berlin. Exactement. Donc il n'y a pas plus arbitraire en fait que ces découpages-là. Et c'est-à-dire qu'effectivement que le fait de mesurer, c'est pas sur le continent africain en tant que tel qu'il y a le plus de frontières, mais par contre c'est les enjeux frontaliers, les enjeux de souveraineté, ils sont constants évidemment comme ailleurs. Et en fait le fait de rappeler que historiquement, effectivement, il y a des décisions parfaitement arbitraires qui sont prises à l'origine de ça. Et c'est la même chose pour le Moyen-Orient, après la guerre de 14, les accords Pikes-Sicot entre la Grande-Bretagne et la France, sur la souveraineté française et anglaise partagée sur le Liban, la Syrie, la Palestine, évidemment, le tout avec des belles frontières parfaitement orthogonales les unes aux autres. Et qui effectivement sont aussi parfaites pour construire des murs, puisque c'est ça qui va se passer derrière. Et bon, alors c'est classique si vous voulez comme argument, et puis on a l'impression que peut-être parfois c'est un argument qui a ses limites, parce que c'est relativiser dans l'histoire en fait l'existence de ces frontières, leur signification, ça peut être une manière aussi, ça peut donner le sentiment en fait que ça n'avance pas forcément, dans la mesure où une fois que c'est en place, c'est en place et c'est vraiment en place, c'est-à-dire que il y a quelque chose comme ça. Mais je trouve que ça a quand même son utilité, c'est-à-dire qu'effectivement ça permet de périodiser quand même cette affaire, parce que début du 17e, il y a 400 ans, 400 ans à l'échelle des territoires, des souverainetés politiques, des mouvements de population, de la gestion même politique de population, c'est rien en fait. C'est quasiment que dalle. C'est-à-dire que des empires, il y en a eu depuis des millénaires, des royaumes, des fédérations, des tout ce qu'on veut. Et toutes ces entités politiques-là, elles ont existé sans frontières cartographiées. Alors il y a des frontières physiques qui existent déjà, alors sous l'Empire romain, le mur d'Adrien, la muraille de Chine évidemment, donc ça c'est des frontières physiques, mais en fait ils pensent que ça n'a pas le même sens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des frontières voilà, sur lesquelles tu peux tomber. Bah, quand tu te retrouves nez à nez avec voilà, la muraille de Chine, évidemment. Mais ça correspond à aucun territoire cartographié. Quoi. C'est-à-dire que, parce que tout simplement, ça n'existe pas et qu'il n'y a pas les moyens techniques de le faire. Donc, bah, évidemment, oui, au cours de tes déplacements, de tes pérégrinations, tu peux te retrouver face à ce mur-là. Bon, d'accord. Mais ce n'est pas quelque chose qui semble comme gravé, comme une espèce de relief naturel, en fait, si tu veux, hein, lié à un pays, à un souverain, à un régime juridique, à une masse de population, etc.
Ouais, là, ouais. Il y a peut-être un parallèle quand même. Justement, tu parles du mur d'Adrien, tu parles de la muraille de Chine. C'est qu'on est dans la logique des invasions barbares.
Oui.
Deux entités avec un État fort, une administration qui se dit se protéger face à l'invasion de gens non civilisés, des sauvages qui peuvent venir. Donc on construit un mur physique. C'est le cas pour le mur d'Adrien vis-à-vis des Écossais.
Oui.
Et c'est le cas aussi pour la Chine face
aux
Mongols, en gros. Et là, il y a un petit parallèle peut-être avec les murs qu'on solidifie aujourd'hui en termes de représentation partagée. Il y a un peu l'idée d'une civilisation en état de siège qui se fabrique des murs physiques parce que les murs administratifs sont plus suffisants. Et de fabriquer des murs physiques pour se prémunir de l'invasion de ces méchants mexicains, ou pire, honduriens, ou pire, d'aller encore plus loin, ou de ces pires arabes qui nous viennent par la Méditerranée. Bref, on est un petit peu, peut-être, je ne sais pas, les parallèles valent ce qu'ils valent, évidemment, c'est toujours fragile, hein, mais peut-être qu'on peut avoir l'idée de renouer avec cette histoire de stress collectif, là, où en dernier recours, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est monter des grands murs, parce que ces sauvages, on ne veut pas qu'ils rentrent chez nous, quoi. Je veux dire, c'est quand même très dans l'air du temps, tu vois. Est-ce qu'il fait des parallèles comme ça, alors, à notre auteur, ou pas du tout?
En fait, il n'en fait pas. Il n'en fait pas vraiment, parce que, en fait, alors, tu as des cas où, évidemment, tu es un peu dans ce motif-là, parce que tu penses aux États-Unis par rapport au Mexique, par exemple. En tout cas, il y a un discours, effectivement, de menace.
Aussi, hein.
Frontex en Europe, pareil. Tu as une autre version qui est en fait, la zone la plus emmurée du monde, c'est Israël. Au mètre carré, en fait, il n'y a pas de doute. Et là, c'est un peu autre chose, en fait. C'est un peu autre chose. La façon dont ils le présentent comme étant un peu autre chose. En fait, c'est une question qu'on peut se poser, parce qu'ils sont quand même nombreux autour. Mais en fait, il pose, lui, en fait, et de fait, politiquement, il a raison, les murs construits en Israël, en fait, sont des murs qui ne sont pas défensifs, c'est des murs offensifs. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des murs de colonisation. Donc en fait, le sens n'est pas tout à fait le même pour le coup. Et puis surtout, en fait, t'as plein d'autres effectivement territoires ou plein d'autres zones du monde où c'est pas le cas. Il y a la Corée, par exemple, la frontière entre les deux Corées. T'as la frontière entre l'Inde et le Bangladesh, et l'Inde n'est pas menacée de subversion par les Bangladais.
Hein?
T'as des murs au nord du Yémen, entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, entre Oman et l'Arabie Saoudite. T'as des murs en Afrique du Sud entre le Zimbabwe et les pays frontaliers. Il y a des murs aussi à la frontière du Ghana, en fait. Donc il y a alors bon, t'as évidemment aussi t'as les murs le long des pays baltes. Là t'as des frontières militarisées aussi face à la Russie. Donc en fait c'est un peu plus compliqué que ça.
Mais tous les murs se valent pas.
Non, tous les murs se valent pas. Tous les murs se valent pas. Tous les murs sont pas justifiés par la même idéologie, submersive, on va dire. En revanche, ça c'est sûr qu'ils se construisent à tour de bras. Ouais, ça c'est clair. Et donc, bon, le tout sur. À chaque fois, évidemment, tu as un contexte historique, ça c'est clair. Mais il s'attarde pas tellement sur l'idéologie. C'est assez intéressant, ça, parce que c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt l'évolution institutionnelle des organes qui sont chargés de surveiller la frontière. Par exemple, il fait une étude assez détaillée de la manière dont la police des frontières américaines s'est convertie en armée, en cellule militaire, quoi, avec du matériel militaire, avec un fonctionnement militaire, avec une hiérarchie militaire, avec des budgets qui sont plus ceux d'une police, mais ceux, effectivement, d'une armée, quoi. Frontex pareil, même si évidemment Frontex, alors on passe notre temps à dire que c'est une passoire, etc. Bon, il rappelle des chiffres aussi quand même. Bon, alors il y a des témoignages, alors, je vais pas rentrer dans les témoignages individuels, etc., mais c'est assez évidemment dramatique à chaque fois. Mais sur le bon, la frontière la plus dangereuse du monde, c'est la frontière européenne. C'est une chance sur quatre d'y rester.
Voilà. Est-ce qu'ils parlent de l'impact justement de la gestion des frontières sur leur mortalité?
Évidemment.
Parce que l'Union européenne, justement, le fait qu'elle soit si mortelle, c'est parce qu'il n'y a pas d'accord, non plus
bien
tout
sûr.
Le monde se renvoie la balle entre Grèce, etc. Et du coup, la réaction, c'est de durcir justement les frontières.
Oui, alors t'as ça, évidemment, t'as les désaccords autour de Dublin, des accords de Dublin, etc. Bon, mais de manière plus générale, en fait, alors là, pour le coup, ça correspond à ce que tu disais, Martin, c'est-à-dire l'angoisse submersive ou en remplacement, ou je sais pas quoi, comment on va dire, ou qui correspond absolument pas aux faits, en l'occurrence, même si tu as des mouvements migratoires effectivement en augmentation. Alors après, tu as des stades, tu as des paliers aussi. Hein, le pic, en fait, lui, les pics migratoires, et en fait, on est toujours en dessous encore aujourd'hui, c'est 2014 hein, après lui, donc c'est essentiellement après l'immigration syrienne, donc là où il y a effectivement des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui quittent leur territoire et pour cause. Et on est en dessous, 10 ans après, on est en dessous, bon, même si voilà, les afflux sont réguliers. Donc en fait, ce qui l'intéresse plus, si tu veux, que l'idéologie qui va te justifier de se protéger du grand remplacement, c'est en fait la dynamique politique. Gouvernemental, quoi, on pourrait dire derrière.
Il y a un côté. La concrétude des dispositifs.
C'est ça,
aussi,
c'est
quoi.
Ça, les dispositifs. Bon, il a un petit côté un peu d'analyse à la Foucault. Il le cite à plusieurs reprises, mais c'est un peu comme ça, c'est technique de pouvoir, quoi. Hein, technique de pouvoir, technique de gouvernement.
Ça amène à comparer, donc manifestement, des types de murs qui ne sont pas mis en œuvre non plus tout à fait selon les mêmes logiques. Entre le mur d'expansion qu'on repousse quand on colonise.
Exactement.
Le mur naturel entre l'Inde et le Bangladesh ou à Chypre, ou des trucs qui ont toujours été là. Bon, voilà, c'est comme si. Puis à la rigueur, même c'est des frontières qui sont faites pour être circulées, quoi. C'est à ça que ça sert à la base. Et les murs de chez nous, chez les vieux blancs qui ont peur, c'est sans doute comparable en termes de dispositifs, mais en même temps, il y a aussi des dimensions symboliques, idéologiques qui sont un peu différentes.
Oui, qui sont un peu différentes et qui peuvent être contradictoires. Parce que, par exemple, dans le cas du Bangladesh, ça c'est aussi... c'est pareil, c'est des choses connues, mais en fait, il rappelle des choses intéressantes. C'est que les mouvements migratoires entre le Bangladesh et l'Inde, c'est les Bangladais qui vont en Inde. Et pour cause, puisqu'en fait, la partition, elle a pas tenu compte, en fait, évidemment, des répartitions familiales, culturelles, linguistiques. Et en fait, évidemment, il y a des Bengalis des deux côtés de la frontière, en Inde, et au Bangladesh. Donc, ça circule, ils vont voir les cousins, ils vont voir la famille, et voilà, bon. Et ils cherchent du boulot aussi, mais il y a évidemment ces liens-là qui sont anciens. Et les Bangladais, ils se font défoncer par les Indiens. Bon, mais dans le même temps, les Bangladais défoncent les Rohingyas qui viennent de Birmanie, et qui sont musulmans comme eux. Donc ils risquent pas de les grands remplacer du point de vue religieux, puisqu'ils sont musulmans pareils. Donc les Rohingyas qui, eux, en fait, sont considérés comme des apatrides par le gouvernement birman, et qui donc se font défoncer par les Bangladais à la frontière, qui estiment qu'ils n'ont pas à accueillir cette population-là, pas vocation, etc. Donc c'est des logiques qui sont... Alors t'as effectivement, au départ, il y a un nœud, si tu veux, parce que t'as d'abord la création du problème, en fait, en tout cas des morts, des gens qui sont descendus sur ces frontières-là, et puis les contraintes administratives, policières, etc., qui vont avec. Au départ, t'as ce partage qui est en fait lié à la partition de l'Inde et qui se fait pareil à la règle sur une carte, quoi. Voilà, hein. Aussi bien au nord avec le Pakistan ou quasi à la règle et qu'au sud avec le Bangladesh. Bon, donc c'est ça qui l'intéresse, lui, si tu veux. C'est l'espèce d'enchaînement de bon. Alors, évidemment, tu peux pas t'empêcher de te dire qu'il y a quand même un biais, parce qu'il te présente ça comme un enchaînement de décisions finalement contingentes. Voilà, et lui, il les lit comme étant arbitraires. En fait, elles ne sont pas forcément complètement à chaque fois. Voilà, mais contingentes, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune nécessité à bloquer des mouvements de population ou des mouvements humains, ou que ce soit, d'une certaine manière. Hein. Et alors, en
D'autant
fait.
Que les frontières d'anciens régimes.
Ouais.
Donc, Westphalien court, enfin au moins ouais. jusqu'au début du XXe siècle, ne sont pas faites pour empêcher des gens de circuler, parce que les circulations, elles sont bien très
sûr.
Importantes.
Bien sûr.
Dans toute, toute l'époque moderne et jusqu'aux années, jusqu'à la Première Guerre mondiale.
Non, c'est tu collectes des troupes et du fric. Et
c'est ça, pour répartir entre partenaires des territoires, des ressources et des partenaires d'échange.
Exactement.
C'est pour, quoi. Parce que, c'est un truc à tarte à la crème, mais c'est que le capitalisme mondial a besoin d'États forts et d'États nationaux forts. C'est pas du tout antinomique.
Ouais.
Donc on est là encore sur une autre logique de tracé de frontières qui sont nécessaires, mais pas pour empêcher les choses de circuler et les gens non plus, quoi.
Exactement. Et donc cette fonction-là, effectivement, d'après lui, elle est nouvelle et elle est récente. Mmh. Elle est récente, c'est-à-dire que ce durcissement-là et sa dimension militaire, pour lui, c'est un tournant, en fait, du rôle des États, en réalité, dans la valorisation du capital à l'ère de la mondialisation, en fait. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que la fonction de l'État, en fait, ça va être de parquer des populations pour avoir de la main-d'œuvre rentable qui lui permette d'augmenter ses marges. Donc là, il y a une fonction nouvelle de l'État et qui apparaît effectivement avec la mondialisation des échanges. Donc celle-là, elle est historiquement située aussi, si tu veux. C'est pas n'importe quand, c'est pas n'importe où, c'est pas n'importe comment. Et c'est le grand non-dit. Alors bon, je vais peut-être en parler après, parce que c'est en réalité, l'argument n'est pas non plus révolutionnaire, hein, mais c'est vrai qu'il est... c'est la partie, je dirais, la explicative la plus convaincante, en fait, de son bouquin. C'est-à-dire le fait de montrer que, il y a une nécessité, en fait, de ces frontières-là. Il y en a une, mais c'est pas celle qu'on dit. C'est-à-dire qu'évidemment, la nécessité de ces frontières et de les durcir et de les hérisser de drones et de barbelés, cette nécessité, c'est celle, de valoriser du capital partout. Et donc, effectivement, de trouver de la main-d'œuvre qui soit bon marché, quoi. Voilà. Peut-être juste pour finir sur ce point-là, parce que je disais tout à l'heure, effectivement, c'est pour ça qu'il est tout à fait sceptique, si tu veux, par rapport à des analyses comme celle de Wendy Brown, là, dont je parlais tout à l'heure, donc universitaire américaine, très, très, très à gauche, très d'avant-garde, très consciente, etc., et qui, elle, effectivement, développe cette idée que, au fond, ce durcissement des frontières, c'est un peu le champ du cygne, si tu veux, des États. C'est qu'en fait, les États, ne gèrent plus grand-chose, ils sont dépassés par les flux de capitaux, les ceci, les cela, et que de toute façon, c'est un effet, c'est un combat d'arrière-garde, et que c'est plus le symptôme, en fait, de la déliquescence de l'autorité des États ou du pouvoir des États, de leur pouvoir politique, que l'inverse. Et ils ne croient pas du tout à ça. Ils pensent qu'au contraire, c'est un renforcement, assez inédit pour le coup, historiquement, et qui est porté, par une fonction historique liée au besoin de valoriser, de multiplier les échanges, parce que on a des technologies qui nous permettent de le faire et qui nous permettent de délocaliser des usines et de produire et de communiquer et de donner des ordres de vente en temps réel, et parce qu'on a besoin d'une main d'œuvre pas chère pour le faire. Et donc le rôle de l'État dans cette affaire là c'est de fermer la porte et de faire en sorte que chacun reste chez soi, quoi. Voilà. Bon, on va peut-être en parler après sur la fin de l'émission sur cet aspect là.
Sonu deg la senegalay defol jamono yu tuuf waye ginnane liñ tekke ko raw fouf bok net likoy misal xal yaangi ni jengu ndox bi ko ci waxal tay beug beug moy dox bi ndax limuy xey di dund mom fa la yam gis melisik ma lakando ndax sen yep lol luñu gis metti tu ñak deug ci la ñom ñep bi xey di cous di tek bataay sa beut ci lolu metti do ci man tous rawati na nak nga don taw ci keur tem jon nga wara aw bay ci dépensu keur xoli gënti bax nak ngay gis sa mère mu koy lijeenti tax bañ gën di ñaan anba fande rer tax ñi entraîné ciéné soppu ko ay mbeur son ci te bëgg bi bëgg tu don ay sa mère ñi merdé gëné don ay agresseur ñi yamale dund ak dé amatu lenn ci peur té naan xaaliss mom moné képp fu mu mënt nekk fu né danañ takku jëf fa né même sax bu ñi xey di laami bu né difficulté de la vie quotidienne continue
échappé par la mer. Bakkan jam le beug fum ko mën di amé bolé ni fi mol ni ko mom fu nuko amé tax ma gaay def sen xéli Espagne té yakar dem délu ci indi kañ Barça Mbappé sax ñu bari yakar na ma def affaire ba tax kaw ñu nekk ñepp la sen wajur xeex té ko señon fa ngay mujjé ak say wajur neex dem rek la ñu bari gisul bam jëlaloon xeex fokk ñu Europe ko fa dem sa dundu du neex ñu jappante dara diglu na dañuy dem bolé lepp lu ñu amon tak sen dëgg ci dem waju soñu doom bolé ay takkay ya gis ko nax ñatti gem jalam doon jaay té xamu ni ñukoy jëm ngir fexay kañu lepp ngir bëgg dem ci gal nga xamé leer na mëna ci gañu Après quelques jours dans le navire, dark donne tout le dara, l'un def ci bir, waye yenn say wax ji mom da fay don nar, ak gaagi day beutu faaw ñu as ndox mi di ko tour, dalé len bo mënu fey, te mëno ndox, malé xamaliñ fi di souf, kën du fi dox, mu lérène bo déwé ci gaagi ci gënd la lay rop metti tak ciono di way di len sono bari yegg Europe yenn say gal ni ni ko duye bam fess del moy wara mu dem ba digi geek ni fo mbel donc cela va être le chaos total ndax bu boba ku nek sa bop ngay tal ni xamul won ci ndox ndul sa ngok sa lem tax bali de ci geek ñun man ni ko lim te ku ci yalla walu ba ngay sen lampe yi bu jenn yaangi taxaw ñom dekk la lam yi
metti ku dund gi ni way ci dekk bi tam na ba hale Difficulté de la vie, quotidien continu, pousse les hommes du pays à s'échapper par la mer.
À l'arrivée des geôles pour quelques jours et le suspense de l'expulsion, débarqué en pirogue, éjecté en avion, et sur les ports on s'affaire pour choper les clans d'eau, car le capitalisme n'offre pas de terre promise, on colonise l'imaginaire des gens. Dès lors esclaves d'un modèle de réussite, on suscite l'envie, créant des besoins toujours plus grands pour une réflexion toujours plus maigre. Ils délimitent l'espace pour sauvegarder leurs privilèges. Pourtant tu le sais, y a pas de frontière entre nos rêves, mais seuls les riches choisiront de crever où ils veulent. Hier, encore un père de famille escorté par des flics, ont tiré ses cinq gosses de leur classe direction la Sonce dans l'attente d'un charter. Et ouais, le profit à vide n'a pas de visage humain. Aujourd'hui, leurs chaises d'école sont restées vides. Ne nous égarons pas, non non, il n'est plus question d'accepter toute la misère du monde. On a fermé les frontières pour construire des prisons à ciel ouvert. On a fermé les frontières pour construire des prisons à ciel ouvert.
Pendant plus de 4 siècles, l'Afrique a été dépouillée, l'Afrique a été pillée. On nous a pris de l'ivoire, on nous a pris de l'or, on nous a pris du diamant. On nous a pillé toutes nos richesses. Donc c'est normal que l'Afrique devienne pauvre. On nous a pris les hommes les plus valides pour les déporter dans les plantations de canne à sucre aux Amériques. C'est l'Afrique qui a fait des États-Unis ou bien de l'Europe ce qu'ils sont aujourd'hui. Les Européens, en venant en Afrique, ils ont découvert l'Afrique par les caravelles. Et c'est normal que nous découvrions l'Occident par les pirogues. Ils refusent de nous donner les visas. Eux, ils entrent et sortent en Afrique comme ils veulent. Sans carnet de santé, sans absolument rien. Je trouve ça très, très injuste. Je t'enrichis, je fais de toi ce que tu es aujourd'hui et tu me barres la route. Pourquoi ?
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui recommence avec Jean-Mathias qui nous parle d'un livre, La violence des frontières de Rhys Jones, paru en 2022 pour la traduction aux éditions Elliott. Et donc Jean-Mathias nous disait comment c'était construite ces frontières, sur quels arguments, donc diplomatiques, mais aussi économiques et peut-être un petit peu... Et peut-être beaucoup économique, en fait, et c'est peut-être ça dont tu vas nous parler.
Oui, bah c'est ce que je disais juste avant, c'est qu'en fait, sur la partie... Bon, il y a une partie, la partie historique, elle est intéressante, parce qu'elle remet en perspective, en fait, voilà, l'émergence de l'idée même de frontières, hein, depuis le mouvement des niveleurs, début du XVIIe, la mise en place des techniques de cartographie, puis ensuite la création d'un ordre international, en fait, étatique, alors, il est le donc il y a cet aspect-là. La partie la plus explicative, c'est celle qu'on mentionnait juste avant. C'est cette idée. Alors, c'est pareil. Est-ce que c'est quelque chose qui est, pour le coup, c'est une explication qui est globale, c'est-à-dire que lui, il voit dans ce renforcement global, ce qu'il appelle le nouveau régime frontalier mondial, il voit la même cause en fait à l'œuvre partout. C'est peut-être pas le cas, en fait. C'est peut-être pas le cas, parce que il faudrait regarder. Mais en fait, il y voit effectivement cette cause économique, finalement, de fond, hein, qui est une analyse un peu marxisante, on va dire. Hein. Mais c'est qu'on a les technologies pour produire à l'échelle monde. On a les technologies de communication, les technologies de production. On peut délocaliser, on peut avoir des donneurs d'ordre, on peut passer les commandes en temps réel, à peu près n'importe où. Les capitaux circulent librement. Bon, bah, du coup, effectivement, si on veut avoir le maximum de marge, et ben il nous faut une main d'œuvre qui soit la moins payée possible. Et évidemment, le meilleur moyen pour ça, c'est d'avoir des parcs ou des réserves de main d'œuvre au Bangladesh, par exemple, voilà, ou en Afrique du Nord, ou ailleurs, etc. Et évidemment, du coup, le rôle des États dans cette affaire-là, c'est de faire les gardes frontières, quoi, hein, et de maintenir les viviers de main d'œuvre pour que ça profite aux détenteurs de capitaux. Alors, est-ce que c'est vrai partout? Ça, c'est une question qu'on peut poser, parce que pour le coup, c'est une explication assez globale. Mais est-ce que c'est la même chose entre le Yémen et puis l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est la même chose entre le Bangladesh et puis la Birmanie? Est-ce que c'est la même chose entre l'Inde et le Bangladesh, etc., etc. C'est des questions, quoi. Parce que, alors, on voit bien, évidemment, pour l'Union européenne, ça c'est clair. Bon, il y a ce que tu disais en off, Martin, tout à l'heure. Évidemment que la fonction même d'un sans-papier, donc d'un migrant, donc de quelqu'un qui a passé clandestinement ces putains de frontières, donc qui a pris ces risques-là, etc. Ben, il y a une fonction économique, y compris sur le territoire métropolitain, français ou européen, c'est-à-dire que vous pouvez le faire bosser sans le payer, et puis sans les garanties salariales habituelles. Donc il a une fonction, c'est vrai. Donc ça marche bien. Pour les États-Unis, ça marche pas mal. Ça marche pas mal aussi. Est-ce que c'est vrai partout? C'est une question. Bon. Après, effectivement, bon, ça remet quand même en perspective. Déjà, l'Union européenne, les États-Unis, c'est pas rien, parce que c'est quand même des destinations de migration importantes. Bon, cela dit, dans la remise en perspective historique, c'est aussi intéressant, parce qu'il donne un certain nombre de chiffres. En fait, il rappelle quand même que depuis la Seconde Guerre mondiale, la migration la plus nombreuse, en fait, c'est de très loin, en fait, celle qui a suivi la partition de l'Inde et du Pakistan. Donc ça, c'est 14 millions de déplacés, hein, en fait, qui passent d'un côté ou de l'autre de la frontière suite au tracé. Donc c'est colossal, quoi. Voilà, c'est colossal. Donc ça relativise pas forcément, voilà, ce qui se passe aujourd'hui ou les autres tragédies migratoires. Mais enfin, c'est aussi important, effectivement, de le garder en tête. C'est pas un truc européano-européen ou occidental-occidental, cette affaire-là. C'est partout.
D'autant que, oui, on peut quand même aussi rappeler, car je vais pas dire de chiffres parce que je suis nul, mais la grande majorité des mouvements migratoires dans le monde se fait de sud à sud.
Oui, bien sûr.
Pas des sud vers le nord. Enfin, c'est aussi une chose à rappeler.
Et tu as toute une étude, alors, aussi intéressante. C'est sud blanc, sud, puisque c'est l'Australie, ouais. Voilà, en l'occurrence. Mais tu as toute une étude sur, effectivement, la politique migratoire australienne, avec des trucs qui sont aussi fascinants. T'as l'île Christmas, par exemple. L'île Christmas, en fait, c'est celle qui stocke, en fait, les émigrés.
C'est une Ellis Island australienne.
Exactement, ou la Mayotte australienne. Mmh. Hein. C'est qui stocke, effectivement, dans des conditions parfaitement dégueulasses, d'ailleurs, l'immigration du sud-est asiatique à destination de l'Australie. L'Australie qui est intégralement peuplée de migrants, ou descendants de migrants, évidemment.
Comme ça, quasiment.
Bon, voilà, donc c'est cet aspect-là. Bon, alors après, sur l'aspect environnemental, il y a deux choses. Il y a à la fois l'impact environnemental direct des frontières, celui dont j'ai parlé, alors qui coupe les trajets habituels des espèces, qui te détourne les cours d'eau. Puisque effectivement, ça te crée des canalisations artificielles, qui t'assèchent du coup un certain nombre de cours d'eau indispensables aux réseaux hydrauliques de certaines villes du nord du Mexique, par exemple. Donc tu as ces impacts directs. Et ce qui est intéressant aussi, et là-dessus, je pense qu'en fait, pour le coup, il a 100% raison, de manière plus générale, il dit qu'en fait, ce fonctionnement, l'existence même des États et en fait le caractère souverain des États, est un obstacle au règlement des problèmes écologiques mondiaux qu'on rencontre aujourd'hui. Voilà, c'est bon de le rappeler. C'est-à-dire qu'en fait, et que dans le cadre de l'ONU, il dit qu'en fait, ben, d'une certaine manière, il n'est pas étonnant que l'ONU ne puisse pas, en fait, régler réellement ces problèmes-là, parce que à partir du moment où tu as des souverainetés qui sont morcelées, ça te crée finalement, ben, de même que tu as des privilèges économiques qui sont voilà, défendus et définis par les frontières, ben, ça te crée voilà, des privilèges écologiques, voilà, des moins touchés, ou des moins voilà, impactés directement, ou de ceux qui ont les moyens de s'adapter ou de continuer à faire comme s'ils allaient pouvoir s'adapter, bon, nous, quoi. Et puis t'as les autres, quoi, d'une certaine manière. Et il n'y a pas d'accord, pour le coup, possible si les décideurs restent effectivement dans le cadre d'un fonctionnement interétatique qui est celui de l'ONU, en fait. Donc ça, c'est plus convaincant. Alors, c'est très macro, hein, comme critique, mais c'est pas forcément faux. C'est pas forcément faux. Et cette espèce de, voilà, d'impuissance, voilà, de trouver des accords internationaux, pour le coup. Alors, c'est ça le plan, si tu veux. C'est que, en fait, lui, il croit même pas à l'internationalisme, en fait. Il croit clairement au cosmopolitisme, en fait. C'est un gouvernement cosmopolite. C'est une approche cosmopolitique qu'il faut pour un gouvernement mondial, quoi, sur ces questions qui sont effectivement mondiales et qui ne peuvent se traiter qu'à l'échelle mondiale. Alors, c'est pas le premier à le dire. Il suffit pas de le dire. Tout le monde est bien placé pour le savoir. Mais c'est là-dessus. Il est sur une espèce, voilà, une forme d'anarchisme cosmopolitique, on va dire. C'est un truc, une tradition un peu aussi à l'américaine de l'anarchisme. Alors bon, avec ses limites aussi, c'est que voilà, c'est en partie déclaratif, cette affaire-là. Donc évidemment, voilà, nos borders, libre circulation de tous, droit du travail mondial et puis droit environnemental mondial. Donc gouvernement mondial, donc bon, alors on attend quoi? Je sais pas, peut-être que les États se fassent sapoucou et puis que ça. Non, bon, je caricature, mais c'est évidemment voilà. Donc le principal intérêt du bouquin, voilà, La violence des frontières, là, de Louise Jones, je sais pas si c'est effectivement sur, en tout cas sa partie la plus forte, c'est pas sa partie programmatique, quoi, on va dire. Voilà, ça veut pas dire que le programme est faux ou débile, hein, loin de là, mais en tout cas c'est pas ce qui est pas le plus justifié du bouquin. En revanche, effectivement, le fait de rappeler un peu de manière claire, finalement, non seulement la facture qu'il y a, facture sociale, morale, économique, environnementale, de cette réalité-là, en fait, et de cette dynamique historique-là, qui est relativement récente et puis qui va s'amplifiant quand même. Rappeler ça, ça a du bon. Remettre en perspective pour relativiser en fait les justifications, les espèces d'évidence, hein, que ces frontières ont aujourd'hui, ça a aussi du bon. Bon, et puis le programme, ma foi, il est beau. Et après, bon, bah, il reste peut-être un deuxième tome où je vais avoir des arguments peut-être plus convaincants. Après, il y a cette question que tu soulevais, Martin. Bon, c'est vrai que c'est une question de se demander si. Si en fait, quoi qu'il en dise, cette espèce de politique de rempart ou de machin, enfin, historiquement, pour le coup, il y aura une autre leçon, c'est qu'en fait, les remparts, ils n'ont jamais arrêté personne.
C'est qu'à l'instant, il commence à s'ériger, c'est qu'il est trop tard. Donc, pas parce qu'il y a une pression extérieure, mais parce qu'il y a à l'intérieur.
Ouais. Donc, c'est une question. Alors, bon, ça, c'est la version. Voilà, c'est que les États n'auront pas besoin de se faire harakiri, ils vont s'effondrer d'eux-mêmes. Bon, on verra, hein, j'ai envie de dire. On verra ou d'autres verront. Bon, en tout cas, c'était La violence des frontières, les réfugiés et le droit de circuler de Louise Jones aux excellentes éditions Elliott, qu'on vous recommande donc pour aujourd'hui.